Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première, pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner. Le tout dans une ambiance détente. Alors si t'as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, 11e Art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressé, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi!
Et voilà, on y est, la fin de saison en boulet de canon, plus que quelques matchs qui valent tous beaucoup plus que ceux d'avant. Normalement, c'est aussi le moment où on commence à regarder un peu moins de foot le week-end, car les températures remontent, mais cette année, bof, donc t'en fais pas qu'on le regarde toujours, le multiplex de 15h du dimanche. Finalement, c'est Pascal Praud qui avait raison sur le réchauffement climatique. Encore un bon mois à fond, une pause de 10 jours et on enquille sur l'euro. Des échéances européennes pour certains, la furieuse bataille de la relégation pour d'autres, le ventre mou pour les moins chanceux. Au bar ou dans la rue, les visages ne sont pas les mêmes en fonction du club supporté. Encore l'autre fois, j'entendais au bar un supporter parisien dire « la saison commence vraiment maintenant ». Et un supporter rennais lui répondre « tu sais moi, j'en ai plus rien à foutre de sport de con ». J'avoue que le supporter rennais, c'était moi. Et pourtant, on va faire comme toutes les autres années, on va continuer à y croire. Continuer à regarder, continuer à gueuler comme un con devant son écran ou au stade, on va continuer à débattre, on va faire des plans sur la comète et se plonger d'ores et déjà sur le mercato de l'an prochain. Certains que je ne citerai pas vont être déçus comme chaque année ou enfin connaître la vraie joie. Quoi qu'il arrive, la sensation d'avoir attendu, d'avoir bossé toute l'année pour ça, pour ces derniers résultats. L'aboutissement de quelque chose. Un rythme aussi, un calendrier de football qui rythme notre vie depuis toujours. Depuis tout petit, on vous l'a jamais dit, mais quand on visualise une année, dans notre tête, c'est toujours de septembre à juin. Année scolaire et footballistique, bien plus qu'une année civile à la con. C'est la belle période, celle où ton père, normalement, te laisse regarder la deuxième mi-temps, même s'il y a école le lendemain, avec des arguments massus envers sa femme à base de « mais enfin, chérie, c'est quand même l'ennemi ». Bah oui, c'est quand même l'ennemi. Et c'est le jour qui se couche plus tard, et donc c'est foot après l'école qui dure plus longtemps. Le seul arbitre, c'est la luminosité ou la daronne de celui qui a ramené le ballon qui le rappelle. Et puis on rentre à la maison, les genoux et les mains pleins de terre, maman gueule parce que t'as trouvé ton jogging tout neuf, mais toi tu t'en fous. Tu sais que t'as empêché ce but en taquant sur le bitume. Il y a un peu de sang, faudra désinfecter, mais en attendant, on va se laver les mains avant de passer à table, enfin on les passe sous l'eau histoire d'eux, et puis on expédie le repas pour se fourrer devant la télé. Se coller au daron qui sent bon le savon, lui, il tacle plus sur le bitume avec ses potes, et tu trouves ça un peu bizarre, et tu sais pas que toi aussi bientôt tu tacleras plus sur rien du tout. Et la musique de la Ligue des Champions et la perspective de pouvoir enfin regarder un match en entier dans le canapé, comme les grands, et pas de deuxième mi-temps planqué dans l'escalier où t'aperçois qu'un tiers de l'écran. Et puis tu comprends pas tout, et les joueurs tu les connais pas tous non plus, il t'en manque quelques-uns dans ton album Panini, et tu vibres quand même, alors même que c'est pas Rennes qui joue. Il joue jamais la semaine en Ligue des Champions, c'est bizarre. Et puis vient doucement la deuxième mi-temps. Tu comprends qu'il est là, le temple des émotions, dans le dernier quart d'heure, quand les joueurs donnent tout, luttent, sont crevés. D'ailleurs, toi aussi, tu luttes, t'es crevé, mais t'as envie de prouver que tu es de ceux qui regardent les deuxièmes mi-temps. Et pourtant, tout commence à devenir un peu lourd autour de toi, plus flou, et tu t'endors doucement au son des commentaires et des bruits des stades, rêvant déjà d'un avenir pas si lointain, demain, quand il fera chaud, qu'on va remettre ça avec les potes, et le soir devant la téloche. Et puis t'es réveillé seulement quand ton père te dépose dans le lit après le coup de sifflet final, les yeux mi-clos, tu lui demandes on a gagné, et il te répond on a gagné, oui. Alors même qu'il n'y a pas de « on », qu'on ne sait pas qui est « on » si ce n'est ce mec qui a un phare, mais oui, on a gagné. Oui, t'as gagné. T'as gagné des émotions et des fins de saison pour le reste de ta vie. T'as gagné le droit de vibrer devant le plus merveilleux des sports, sous la pluie ou sous le soleil. Et tu le sais pas encore, bientôt ce sera pas ton père qui te ramènera au lit, mais sûrement tes potes en sortie de stade. Bientôt tu dormiras devant les matchs pour d'autres raisons. Bientôt, si ça se trouve, tu créeras un média avec des potes tellement tu trouves ça incroyable. Mais oui, quoi qu'il arrive, on a gagné. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous et à toutes d'ailleurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Poteau Carré. J'espère que tout le monde est prêt pour cette fin de saison haletante en championnat ou en Europe. Moi perso, je vais me focaliser surtout sur l'Euro. Aujourd'hui, on va sortir des 5 grands championnats pour parler d'un vilain petit canard qui étonnamment n'intéresse pas grand monde. Et avec moi pour en parler, celui qu'on surnomme le Grand Batave ou Groot Bataf dans la langue de Van Roor. Évidemment que Tom est là pour parler de son pays d'adoption, les Pays-Bas. Ça va Tom ?
Ça va très bien, je suis heureux d'être là, je suis un peu forcément triste de la situation dont on va parler aujourd'hui, mais voilà, je suis content de pouvoir parler de foot néerlandais sur 11e Art.
Si je dis pas de conneries, t'étais déjà là pour l'émission de Feyenoord. Faudrait revenir sur les archives. Je suis pas sûr qu'on ait fait beaucoup d'émissions en Zemar sur nos voisins Bataf sans
Ah
toi.
bah, hors de Big Five, j'ai presque toutes faites. J'ai fait Feyenoord, Benfica, il manque l'Ajax.
Ouais, bah l'Ajax, on l'avait peut-être fait quand t'étais pas encore là.
C'est
C'est
ça.
peut-être pour
Et
ça
Porto non plus.
quand il marchait bien. Et pour l'accompagner à côté de lui, celui qui a connu ce pays comme un vulgaire département français, il fut un temps, et qui échangeait des panini de Cruyff avec ses petits camarades à l'école. Ça va, Alex?
Ouais, ça va très bien. Et ton intro fait plaisir parce que pour vous mettre tous dans la confidence, on se disait avec Jules en privé que c'était une année de merde footballistiquement. Et finalement, quand les demi arrivent en Ligue des Champions, les quarts, on oublie tout quoi, et on se dit putain, ce sport est génial.
Ouais, exactement. Mais je pense que tu as pas mal de supporters où en fait, on n'a plus rien à foutre de ce qui s'est passé les 6 mois d'avant. Et maintenant, tu es prêt à tout accepter pour passer au tour d'après.
Bah, on en a un ce soir, hein, je pense. La demi de Coupe d'Europe pour Alex, c'est pas mal. Hein,
Si on en parle une seconde, moi j'ai beaucoup de mal à m'emballer. Hein.
Non, mais quand t'emballer, on va dire que ça amène un peu de sel dans une saison bien tiédasse.
C'est ça.
Après, je me suis fait une réflexion, c'est pas le sujet, hein. Je me suis fait une réflexion à la compte. La DNCG vient de publier les comptes des clubs français, etc. L'OM est en déficit de moins 12 millions seulement cette saison.
C'est pas
et
mal,
ils partent, il y a 3 ou 4 saisons, ils étaient à moins 130 par saison. Donc en fait, c'est vrai que c'est dur toujours de décorréler la réalité de l'entreprise et la réalité sportive. En fait, je pense que malheureusement, ça coupe sec parce qu'il faut... Il faut économiser de l'argent et en fait le bon Longoria est un meilleur comptable peut-être que directeur
que communicant
sportif.
Aussi.
Bon bref, de toute façon on n'est pas là pour parler de Marseille, on a rien à foutre de ce club. Je propose qu'on se dirige dans le pays où on aime autant les grands numéros 9 que les tulipes. Bienvenue à Arnhem, je pense que je prononce mal, Tom va me reprendre, dans l'est du pays où on va s'intéresser à la saison historique du Vitesse qui compte aujourd'hui au classement un total de moins un point. Oui, moins un. On va évidemment vous expliquer tout cela, comprendre comment l'ancienne pouponnière des Blues de Chelsea a pu se mettre dans un tel merdier alors qu'il rêvait un petit peu d'Europe il y a 4-5 ans. Mais avant ça, vous en avez l'habitude, pardon. On va revenir un peu sur l'histoire du club pour comprendre d'où on parle. Et on va commencer avec toi, Alex.
Ouais, bah Arnhem, déjà pour vous situer la ville, on n'est pas sur une énorme ville. Hein. C'est top 10 en taille et en nombre d'habitants pour une ville des Pays-Bas. Mais on dépasse péniblement les 180 000 habitants. C'est un club qui est historiquement le troisième plus vieux du pays, si on compte les clubs qui existent encore en D2 et en D2 du championnat, pardon. On a donc Dordrecht qui date de 1883 et le Sparta Rotterdam qui date de 88. Et c'est, pour la petite histoire, une section de cricket qui a été créée en premier et la partie football qui s'est installée quelques mois plus tard. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, comme tous les clubs qui étaient souvent multisports à leur création, en été, le terrain était réservé pour le cricket. En automne et au printemps, on pouvait jouer au foot. Et l'hiver, ça servait à faire du patinage.
C'est marrant parce qu'à la base, c'est souvent d'abord du cricket.
Ouais.
Moi, je les soupçonne, tu sais, d'avoir fait des clubs de cricket. Tu sais, au bout de 5-6 ans, ils se sont dit « Mais c'est quoi ce sport de merde ?»
C'est clair.
Pourquoi on fait ça ?
On se fait chier, coup, après, mettez-nous un ballon, quoi. La balle est trop petite. Mais il y a un autre truc qui surprend tout le monde, hein. C'est donc la ville, c'est Arnhem, le club, c'est le Vitesse. On dit le Vitesse tout court, on dit pas le Vitesse Arnhem. Et je remercie Tom pour cette précision. Et pourquoi le Vitesse? Parce que en fait, c'est écrit comme la vitesse en français. Bah tout simplement parce que au moment de la création du club, ils se sont dit qu'il fallait un truc chic qui pète un peu. Et bon, le néerlandais, qui est une langue qui manque un peu de douceur, on va dire. Ils ont finalement opté pour un mot français. Ils voulaient quelque chose d'élitiste, de beau, qui sonne un peu bourgeois dans les oreilles. Et c'est comme ça que le Vitesse est né.
Jean-Marie Bigard les remercie.
C'était pas du foot, du kick and rush, hein, encore à l'époque. C'était pas Mbappé devant, c'était vraiment du foot vraiment basique. Hein. Donc, pensez tout de suite à vitesse de jeu et tout. Non, c'est pas possible.
Ouais, c'est vrai que la transition est encore bien loin. Et bon, je vous propose d'avancer un peu à l'après-guerre parce que Donc Arnhem, la ville, a été assez ravagée pendant la guerre, mais ça, Tom vous en parlera plus tard. On passe un peu à l'après-guerre parce que c'est une équipe qui a pas révolutionné l'histoire du foot, quoi. Ils vont faire le yo-yo entre la première et la deuxième div. Il y a un passage difficile en troisième division. Ils sont champions de D2 en 77 et 89. Et ils connaissent une période faste entre la saison 89-90 et 2001-2002, où ils terminent à des belles 3e et 6e places du championnat. Et c'est ensuite que les soucis vont commencer.
Ouais, donc comme tu le disais, en fait, Alex, ça commence à devenir un petit peu la merde à ce moment-là. Tom, tu vas nous expliquer pourquoi, tu vas même revenir un petit peu avant, parce que ça commence même dès 84 en fait.
Ouais, alors déjà, on va le voir au fil de l'épisode, mais ce club est un peu marqué par de nombreuses banqueroutes, voilà, tout simplement. Et la première vient effectivement en 84, quand Karel Albers, double A, hein, évidemment, les Néerlandais, ils savent bien faire les choses. Vient pour sauver le club. C'est à ce moment-là où les parties amateurs et professionnelles du club sont séparées et il n'y en a aucune des deux qui est viable financièrement. Donc lui vient pour restructurer tout ça et le club aurait pu disparaître. Mais bon, grâce à ce fan du club et entrepreneur local, ils arrivent à relancer les choses. Il a un peu d'aide avec la municipalité locale et d'autres gens. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour avoir cet investissement local de la municipalité, il va se mettre sur la place publique et faire un peu à l'ancienne, il va dire « Bon, bah, qui veut sauver le club ?» Et bah tout le monde. Et bah donc tout le public a décidé qu'on adore ce club, on n'y va jamais parce que dans les années 1880, on s'en fout un peu, c'est les hooligans, etc. Donc les stades sont vides. Et bah tout le monde va y aller au stade. Et bah ils étaient 7000. C'est déjà pas mal, mais tout le monde va aller au stade, tout le monde va motiver la ville pour sauver le club.
C'est un bel élan populaire, hein.
C'est un grand élan populaire, voilà. Et puis, j'en parlais avec, on en parlera plus tard, mais mon pote qui est abonné depuis toujours, Feyenoord et compagnie, c'était aussi très, très vide. Donc, les Pays-Bas et le foot, il y a une période où, malgré l'Euro 88, c'était quand même pas garanti d'avoir un grand pays de football. Donc, voilà.
En fait, l'équipe nationale a peut-être un petit peu tout bouffé.
Voilà.
Et donc, comment on arrive, on va dire, dans les premières banqueroutes ?
Bah justement, là, il arrive, il s'est un peu restructuré tout ça. Il a réussi à refaire un club viable, faire remonter en première division et jouer les hauteurs du championnat d'Irlandais, donc Eredivisie. Et bah en fait, comme tout grand investisseur local, hein, bien sûr, on pense à Jean-Michel Aulas, il s'est dit un grand stade, ça serait une très bonne idée. Et bah, Aulas, il s'est peut-être pas flingué la gueule financièrement, Albers un petit peu plus. Alors, l'idée était simple, c'était d'avoir un stade qui serve au foot, mais pas que. Et bah, comment le faire sans abîmer la pelouse ? Bah, tout simplement, un système de glissade de terrain, tu vois, le truc qui sort du stade. Aujourd'hui,
En vrai, c'était presque révolutionnaire, hein.
Bah, c'est révolutionnaire parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a que le Schalke 04 et au Japon où c'est utilisé. Alors aujourd'hui, on voit la pelouse du Real Madrid qui est un peu particulière.
Ouais, voilà. J'allais dire, c'est un peu un Bernabeu cheap, quoi.
Voilà. Alors vraiment, moi, je l'ai vu, ce stade, et on en parlera aussi, mais j'ai fait un match contre la Roma il y a 2 ans. Ouais, c'est vraiment le stade qui... Il y a un truc qui glisse pour sortir le terrain du stade, et bah, ça donne un truc vraiment sympa. À cela, tu ajoutes un toit rétractable, parce que bon, l'appui aux Pays-Bas, ça fait chier quand même, un moment ou l'autre. Et donc, est né le Gelredome, qui est implanté dans le sud de la ville d'Arnhem, qui est le plus grand stade de la région. Il est construit avec l'aide du sponsor local Nuon, qui est un producteur de gaz et d'électricité. Et le stade est complété en 98 avec 25 000 places, un stade qui sera utilisé pendant l'Euro 2000 pour 3 matchs de poule notamment. Et ce stade, ça a un vrai apport financier au début pour le club et la principauté qui voit du coup plein d'événements et pas que du foot passer en ville. Bah, les Monster Trucks notamment, hein, ça fait rêver tout le monde. voilà, Flo, il a sûrement dû en voir à l'Accor Arena, mais aussi Lady Gaga, Céline Dion, Madonna, Coldplay, les Rolling Stones et Rihanna. Bon, rien que ça, dans une ville de 150 000 habitants ou 180 000 habitants, c'est comme si Madonna se déplaçait à Angers. Ça ne fait pas forcément rêver, voilà, sur cette idée-là. Du coup, le stade monte progressivement en capacité à 34 000 places pour un match et 41 000 pour les concerts, soit le double du précédent. Alors déjà là, ça vous, hein, y a une petite idée qu'il y a peut-être un problème de remplissage. Et donc, ouais. Malgré un Albers hyper ambitieux et le soutien du CEO de Nuon, Todd Schwellnein, on va y arriver, il y a un des deux prononciations, le stade ne se remplit toujours pas un jour de match. Et il devient même un problème financier. Le club n'arrive plus à repayer les 18 millions de prêts faits pour financer le stade aux banques néerlandaises. Les fondations de la tribune Est, bah, ils ne sont pas finies, voilà, parce que bah, ça ne sert à rien de finir des fondations. Et par conséquent, bah, c'est un impact financier énorme sur le club. Les banques donnent jusqu'à octobre 2002 pour rembourser le prêt. Et Albers, il voit déjà, il a un peu vu le truc venir, donc il a démissionné. Il s'est dit qu'il y aura des problèmes financiers plus tard. Financiers rattrapés par la patrouille en 2005 pour des magouilles aussi. Et Nuon aussi a vu que Swellenheim, il investissait trop dans de vitesse. Et donc, ils l'ont viré. Donc, dans ce truc-là, ça ne va pas très bien financièrement.
Encore une belle équipe de chic type qui dirige nos clubs de foot, ça fait toujours plaisir.
Voilà, toujours. Et donc, finalement, c'est la région de Gelderland où est basée Arnhem et la municipalité de la ville qui viennent à la rescousse. C'est un problème voilà, vis-à-vis des autres clubs de la région, notamment le NEC Nijmegen et le Apeldoorn, qui crient au favoritisme. Hein, tout de suite, normal, tu as la région qui paye pour un stade, bah, tout de suite, c'est un problème. C'est un début de rivalité, notamment avec NEC. Et finalement, est-ce que Vitesse est vraiment avantagée par tout ça? Pas vraiment, parce que 2 millions d'euros par saison à la région, ça fait un peu chier. Et donc, forcément, tu n'arrives toujours pas à rentabiliser ton stade. Aujourd'hui, il est détenu par le milliardaire Michael van der Kuyt, à ne pas mélanger avec Dirk Kuyt, évidemment, et qui a essayé de racheter le club au passage du stade. Tu vois, ça faisait un peu le combo. Et un tunnel qui semble donc bien long et bien sombre. Le seul point positif qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que lorsque le club va très mal sur le terrain, bah, les supporters sont là. Les abonnements pour la deuxième moitié de la saison, hein, parce que tu peux faire ça, tu peux prendre une deuxième moitié de saison au-delà de toute la saison, bah, ça a vendu un nombre record en janvier cette année. Donc, comme mon club de Groningen, qui est descendu en deuxième division l'année dernière, le public répond présent malgré les difficultés. Mais malheureusement, c'est un stade fort sympathique de l'extérieur qui ressemble vraiment à celui de Schalke, dans une belle ville, mais comme d'autres stades, et à Lyon notamment, bah, c'est un stade qui est trop grand et qui est devenu plus qu'un poids plutôt qu'un apport financier au club.
Ouais, à Lyon et à Nice aussi.
Ouais.
À Nice aussi. Ben, en vrai, c'est toujours pareil. C'est un peu la folie des grandeurs des propriétaires de clubs. Donc là, on est à peu près... on va reprendre un petit peu, les gars, le fil de la chronologie de ce club-là, parce qu'il y a quand même pas mal d'événements qui se passent. C'est que donc tu as parlé de la création du stade, de la banqueroute. Si on revient en fait au début des années 2000, là où ça commence à être vraiment la merde, et comme ça, après, on va arriver à notre ami Abramovich, parce que c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant avec ce club.
Bah, en fait, ce qui est rigolo, c'est donc il y a cette période tumultueuse jusqu'au départ du président dont tu as très bien parlé, Tom. Et en fait, c'est tellement tumultueux, il y a des histoires également de malversations, que le club est surnommé le FC Hollywood du Rhin. Donc, et puis,
sacré nom.
Et tu fais très bien de parler de Madonna et de toutes les stars qui sont venues, parce que faut voir la démesure dans laquelle a sombré ce président qui s'est vu trop beau, trop gros. C'est comme un peu, vous savez, le stade du Mans qui était sorti de terre, ou à Grenoble avec
le Matmut.
Exactement, et
le
des
MMA
actionnaires.
Arena.
Ouais, et des actionnaires qui expliquent qu'ils vont jouer la Ligue des Champions sous 2 ans. Il y a un petit côté, on manque de pieds sur terre. Mais en fait, il y a tout qui change.
On oublie de préciser, c'est vrai qu'en effet, parce que là, on s'intéresse beaucoup aux clubs malades, et en fait, commence à être redondant, que la majorité des crashs de clubs, comme des crashs d'avions, sont la responsabilité d'êtres humains aux commandes, qui souvent
bien
font
sûr
de la merde.
Bien sûr. Et la merde, en fait, là, si vous voulez, dans ce que racontait Tom, on est un peu dans une gestion à la papa avec le président, la région derrière et les fonds publics. Mais il y a tout qui change, et c'est là où le club bascule complètement. C'est en 2010, avec le rachat du club par Merab Jordania, qui est un ancien joueur géorgien. Et Vitesse devient alors le premier club néerlandais à passer sous pavillon étranger. Et donc, on a donc ce nouveau président qui arrive avec des ambitions très fortes. Il veut remporter des titres. Et dès sa conférence de presse d'introduction, on lui pose une petite question et on lui demande « Mais quel lien vous entretenez avec Roman Abramovich ?»« Oh, c'est juste un ami. » »« Oui, bien sûr, bien sûr. » Évidemment. Donc, c'est là que les choses commencent à partir un peu en sucette. Pour vous expliquer concrètement comment on est arrivé à cette sanction de 18 points, il faut considérer cette date de 2010 comme le premier pavé dans la mare, parce que c'est à ce moment-là que, en fait, Roman Abramovich commence secrètement à financer le club.
Juste, Je t'interromps ouais, deux secondes, Alex, parce qu'on l'avait pas encore précisé dans l'épisode, parce que le vitesse tout court, est à moins un point au classement parce qu'ils ont été sanctionnés de 18 points, comme tu viens
exactement,
de le dire.
Exactement.
Et ça commence dès les années 2010, en fait.
Exactement. Et ce qui se passe, c'est que bon, maintenant, on connaît tous les clubs satellites, Strasbourg pour Chelsea. Bon, là, j'en ai aucun qui me vient en tête, évidemment, mais vous voyez très bien de quoi je parle.
Non, mais il y a eu des plus petits, tu vois, pense au Cercle de Bruges avec Monaco.
Bien sûr.
Mais c'est avant-gardiste, ça c'est clair. 2010, c'est avant-gardiste.
Non, et puis surtout, il n'y a rien qui est déclaré, quoi. Donc, en fait, avoir un club satellite sur le papier, on peut trouver ça gênant, mais tu as l'obligation, ne serait-ce que vis-à-vis de l'UEFA et des instances, d'expliquer que tu es actionnaire dans le club, quoi. Et en fait, ce que va faire Roman Abramovich, et qu'on va vous détailler un peu ici, c'est qu'il va tout faire en sous-marin et que on parle de à peu près 117 millions d'euros qui ont été prêtés par Roman Abramovich au Vitesse, sans que jamais il y ait une trace écrite prouvant que l'argent est passé des mains de Roman Abramovich au Vitesse Arnhem. Et ce qui est fou, c'est qu'il va mettre... Alors, je pense que vous avez tous vu sur Canal la série qui est bon, pas dingo finalement, une fois qu'on l'a fini, d'argent et de sang, ou de sang et d'argent, je ne sais jamais.
D'argent et de sang, ouais.
Et où en fait, le rôle de l'enquêteur est d'essayer de faire un lien entre l'arnaque financière et les arnaqueurs. Bah, en fait, ce que va faire Abramovich, c'est exactement pareil. Il va mettre en place tout un système de sociétés offshore qui sont basées dans des paradis fiscaux. Et jamais, malgré des enquêtes, malgré des documents qu'on fuitait, jamais on a réussi à faire une corrélation directe entre Abramovich et le club du Vitesse. Le président...
Malgré le fait qu'il leur prêtait 25 joueurs par saison.
Bah, alors ça, déjà, c'est l'événement qui saute aux yeux. On peut en citer quelques-uns. Il y a Mason Mount, notamment, qui est passé par là. En fait, il y a beaucoup de joueurs assez connus qui
le
sont...
Le petit frère Hazard aussi.
Ouais, j'ignorais ça.
Ouais.
J'ignorais
Matic, au début de carrière. Ouais. Matic, Solanke, Abraham. Celui qui me fait rire, j'en ai parlé avec Warner, le pote supporter, c'est Jamal Blackman, qui n'a jamais joué une minute pour Chelsea et pas joué une minute pour Vitesse non plus. Et il joue une saison là-bas, il s'y plaît bien. Et en quittant le club en fin de saison, alors qu'il n'a pas joué une seule minute, il fait un pavé. Mais alors un pavé sur Insta pour expliquer à quel point il était heureux d'être venu. Et merci à la ville, merci aux supporters. Les supporters sont genre, mais t'es qui toi? Enfin, on ne te connaît pas du tout.
Et donc, il y a des enquêtes qui se multiplient, notamment par la Fédération Royale Néerlandaise de Football, et qui, en fait, essaye de tirer au clair cette affaire. Et en fait, il y a un moment où on passe carrément dans le foutage de gueule, parce que Merab Jordania, il quitte donc le club en 2013. Tom, je te laisserai raconter qui prend la suite. Et il finit par dire, quand il revient sur son passage au Vitesse, il finit par dire que le Vitesse avait été empêché de renforcer son équipe pour remporter le championnat et se qualifier pour la Ligue des Champions, parce que Londres ne le voulait pas. Donc, on a des enquêteurs, on a la Ligue, on a la Fédération qui cherche des preuves pour prouver qu'il y a... de l'argent qui est détourné et qui a investi cash dans le club sans qu'il y ait aucun contrôle dessus. Et le mec, il va tranquillement expliquer que s'il a échoué, c'est parce que Londres a bloqué ses projets de recrutement. Il a finalement retiré ses propos parce que c'était en fait s'auto-dénoncer.
Et, parce que c'était ça ou la mort, donc il a dit non, c'est pas ça que vous voulez bien.
Et donc les enquêtes vont continuer. Tom, je te laisse poursuivre sur cette fameuse année 2013 et notre cher Alexander Chigirinsky.
Ouais, et puis là après on va doucement arriver justement sur la période actuelle, parce que ça commence en fait, voilà, c'est ce qu'on dit toujours, c'est qu'en fait t'as des anecdotes croustillantes, etc., et ça peut finir un petit peu en drame avec des clubs qui s'écroulent. En France, ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense aussi. C'est déjà arrivé plus ou moins avec Bordeaux, etc. Donc c'est aussi ça qui fait un peu peur quand on raconte l'histoire du Vitesse.
Oui, parce qu'en plus le club à ce moment-là, il est plutôt bien. Il a des belles années, hein, les années 2010. Il joue l'Europe de temps en temps. Bon, forcément avec l'investissement d'Abramovich, ça va beaucoup mieux. Et en fait, l'année à peu près 2014-2015, ils sont hyper dépensés. C'est-à-dire qu'ils ont un turnover de 14 millions à l'année, qui est quand même énorme pour un club néerlandais, surtout de cette taille-là. C'est pas l'Ajax non plus. et donc fait plutôt les hauteurs du classement. Et, bon, c'est Twente qui gagne le championnat à ce moment-là, mais en gros, il joue la Coupe d'Europe régulièrement. Donc, changement de propriétaire, il faut garder un peu, voilà, faut garder les bonnes épaules pour pouvoir tenir ce rythme-là, sachant qu'il y avait entre 100 et 150 millions d'euros de dettes au moment du premier achat des Russes. Donc forcément, ça va être à nouveau des Russes, hein, Alexander Jirinski qui rachète le club. Bon, est-ce qu'il a peut-être participé au rachat de Jordania avant ? Oui, peut-être. Est-ce que j'étais déjà là en arrière-plan ? Est-ce que j'étais déjà un oligarque qui aidait un peu tout le monde ? Oui, c'est possible.
Est-ce que je suis très proche de Roman Abramovich ?
Non, oui. Pas du tout. Arrête, arrête. Tu peux pas me laisser dire ça. Tout ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a eu plein d'investigations derrière et qu'ils n'en arrivaient toujours pas à prouver ces liens-là. Il est hyper dépensier et puis en fait ces 5 années là ils sont pas top top non plus.
En fait, juste pour expliquer, parce que depuis tout à l'heure on dit oui, il faut réussir à prouver, etc., en parlant de choses qui sautent aux yeux, pour expliquer, c'est qu'en fait, pour les sanctionner, il faut avoir des preuves tangibles, donc il faut qu'il y ait des écrits, il faut réussir à casser entre guillemets les structures où ils planquent on va dire les montages financiers entre les différentes structures, etc. Et autant dire qu'Abramovic à ce jeu là c'est pas un petit joueur.
Non, non, d'autant plus que les supporters sont plutôt contents, tu vois. Vandoor, pareil, il dit, il a 12 ans en 2010 quand il y a le rachat, on leur promet la Ligue des Champions le titre. Bah, lui, il est content, tu vois. Il joue sur une partie de FIFA, il s'est dit, bah, je peux racheter tous les joueurs que je veux. Il y a Odegaard et Mason Mount qui jouent, tout va bien. Bah non, en fait, il y a des petits problèmes financiers derrière que tu comprends peut-être un peu plus tard quand tu vieillis et que tu découvres ce que c'est vraiment le foot. Voilà, donc 2018 arrive et il y a à nouveau un rachat parce que les banqueroutes, c'est pas exactement des banqueroutes parce qu'on parle de d'investisseurs russes, mais bon, on est quand même pas sur une très très grande santé financière. Mais la KNVB, non, en fait, la fédération,
en fait, c'est plus ou moins kiff-kiff. Je sais pas si tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, Tom. Je sais pas s'il y a une institution en Eredivisie comme la DNCG en France, etc. Mais en fait, c'est que ils s'approchent du ravin et en fait, souvent ces instances-là leur disent, bah écoutez, c'est extrêmement simple. Soit vous trouvez un repreneur actionnaire, donc minoritaire ou majoritaire, soit c'est ciao bonsoir et vous descendez en troisième division. Vous l'avez sûrement vu dans les clubs français, vous qui nous écoutez, où ça arrive, où en fait, avant le passage de la DNCG, en fait, la DNCG met des sanctions, on va dire, potentielles, de dire si vous ne trouvez pas ça, il va se passer ça, si vous ne trouvez pas ça, il va se passer ça. C'est plus ou moins ce qui se passe avec le Vitesse, où ils sont obligés de retrouver un racheteur à chaque fois, sinon le club se casse la gueule.
Ouais, exactement. J'expliquerai plus tard la licence, mais ouais, c'est un peu dans ce style-là.
Ouais, voilà, parce que juste pour compléter ce que tu dis, Jules, sans empiéter sur la notion de licence, la DNCG, il faut leur raconter une histoire, en fait. Il faut arriver, et c'est pour ça qu'on en a déjà parlé, mais que quand le nouveau propriétaire de Lyon est arrivé et s'est cassé la gueule face à la DNCG, c'est parce que tu as parfois des businessmen qui se disent « mais c'est bon, j'ai l'argent, j'ai rien à prouver ». Mais en fait, il faut leur vendre qu'il y aura une qualification pour telle compétition l'année prochaine qui va rapporter tant de millions, donc on peut se permettre de dépenser tant. Il faut leur prouver qu'on est structuré, quoi. Et c'est un peu aussi ce qui a coincé, notamment à travers un événement que vous connaissez tous, qui est la guerre en Ukraine. Et vous vous rappelez de l'épisode qu'on a fait sur Chelsea et expliquer le départ et le retrait d'Abramovic. Bah, évidemment que comme l'argent venait à 99% de fonds russes, ça a posé problème pour le Vitesse aussi.
Et sans partir dans des théories du complot aussi, etc., mais Abramovic et ses copains sont quand même des gens qui ont assez le bras long, etc. À partir du moment où ils retirent tous leurs billes au moment de la guerre en Ukraine, t'as quand même un parapluie qui s'enlève par rapport aux instances et autres.
Ouais, complètement. Et surtout que bah, à ce moment-là, c'est un nouveau Russe qui est propriétaire. À partir de 2018, c'est Valery Oif. Et que du coup, ces fictifs, ces actifs financiers sont gelés par l'Union européenne. Et c'est là que ça devient très drôle. Alors, je vais parler un peu du système de licence. Alors, les licences, bah, c'est comme la DNCG, c'est toujours aussi fun. Chaque année, la KNVB, donc la Fédération néerlandaise, et sa commission de licence regardent un peu de plus près les comptes des clubs. C'est pareil aux Belges, sauf que les Belges sont un peu moins regardants. Donc, quand tu te fais attaquer par la commission de licence en Belgique, c'est que vraiment, on va vraiment te taper sur les doigts pour le coup. Donc, c'est un système qui est suivi sous la licence de l'UEFA. C'est un peu le même système que la DNCG. Il faut pouvoir présenter des comptes qui eux-mêmes ont été approuvés par un comptable. Alors, un comptable que l'on respecte et que la KNVB aime bien. Avant de faire l'inspection à l'audit, il doit y avoir plein de choses qui sont intéressantes. Et bah, ce qui est très intéressant avec Vitesse, c'est qu'il n'y a plus de compte. n'y a plus de balance sheet, il n'y a plus rien. Parce que, alors, le truc, c'est qu'eux, ils utilisaient ING, qu'on n'a pas en France, je pense, en banque.
Si, ça existe, ING,
oui. Il n'y en a pas beaucoup, en tout cas. Et que bah, le club était chez ING. ING, ils ont dit, mais alors, malgré le fait que les actifs financiers de M. Oif ont été figés, lui, il veut quand même vendre le club, évidemment, à un euro symbolique. Sauf qu'il ne trouvait pas de repreneur, et donc, bah, il est encore propriétaire. Et bah, l'UE dit que les fictifs ne peuvent pas être au nom d'un russe, et donc... l'ING veut fermer le compte en banque. Et ben c'est quoi la solution qu'elle va trouver Vitesse? Ben ils vont demander à une banque en Lituanie s'ils peuvent prendre leur compte là-bas. Et la Lituanie, tu savais pas que c'était en Union européenne? Enfin, je demande, hein, c'est pour un pote. Ah bah si, voilà. Donc, ils font tout ça, ils essaient de trouver d'autres comptes pour essayer de mettre leur argent, enfin l'argent qui reste. Sauf qu'ils disent rien à la KNVB. Donc, tout va bien, tout va très bien se passer. On arrive à l'audit avec le comptable. Ah bah on n'a pas de balance sheet, on n'a pas de compte à vous présenter. Et donc, bah forcément, le comptable, il ne peut rien présenter à l'audit derrière pour la licence. Et donc, on arrive à l'événement qu'il y a eu il y a deux semaines, ou la semaine dernière, les moins de 18 points parce qu'il n'y a pas de compte, parce qu'on a menti à la Fédé et à la licence, et que bah, tu commences à nous faire chier avec tes Russes. Là, il y a un moment ou l'autre, il faut qu'on te tape sur les doigts.
En vrai, l'histoire est quand même folle. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que c'est quand même un club qui prend une sanction machin parce qu'en fait, au-dessus, ça fait tellement n'importe quoi qu'ils n'ont pas de compte à présenter. C'est vraiment toi quand tu es au collège et que tu débarques en cours et que tu fais genre, tu as oublié ton devoir maison, c'est ton chien qui l'a bouffé. C'est la même chose. C'est une catastrophe en vrai en termes de gestion. Moi, je suis supporter du Vitesse. Tu pètes un câble. Est-ce que juste ce que ça implique, tu peux aussi nous expliquer un peu ce que c'est la licence en Eredivisie, Tom, parce que c'est aussi important.
Je peux juste faire. Je vais laisser Tom sur les licences parce que c'est beaucoup trop compliqué pour mon cerveau étriqué. Tu disais c'est le devoir que t'as oublié. C'est aussi, tu sais, le mec qui a mytho à tout le monde, mais vraiment à tout le monde. Un peu Xavier Dupont de. Xavier Dupont de Ligonnès, je pensais, vous savez, au médecin Roman, là.
Oui, Roman.
Qui a arnaqué tout le monde, qui a emprunté de l'argent à sa belle famille, et qui, en fait, au bout d'un moment, tout le monde se retourne et dit, mais je comprends pas là. Elles sont où les thunes? Et en fait, ça a commencé presque par ING qui demandait juste des infos sur la structure du club.
Et d'où venait l'argent, ouais.
C'est qui le président, en fait? C'est qui est-ce qui dirige le club concrètement chez vous? Pas de réponse. On va passer au compte. Est-ce qu'on peut avoir des traces des mouvements financiers qui ont eu lieu dans le club? Pas de réponse. Et en fait, quand tu te mets ta banque à dos et que t'as dit aux instances ouais, c'est bon, ça roule, pas de galère, bah ça finit par péter. Et c'est comme ça qu'un peu ça a explosé, quoi.
Mais c'est vrai que c'est assez dingue, de voir que en fait ils ont entre guillemets échappé aux instances pendant je ne sais combien de temps en faisant les margoulins avec Abramovich pour se faire attraper aussi connement. Et du coup, c'est ce que tu disais, Tom, c'est qu'en fait, du coup, la sanction est tombée il y a deux semaines, c'est ça?
Ouais, il y a enfin une semaine, ouais, j'ai un doute maintenant, je ne sais pas quand on sortira l'épisode. Mais...
Et donc.
Et qu'il y a moins 18 points, donc moins 1. Et donc, de toute façon, ils étaient mal calcés, ils étaient déjà derniers du classement.
Oui, c'est ce que j'allais dire, pour tomber à moins 1 quand tu prends moins 18, c'est qu'a priori, tu es déjà mal parti.
Voilà. Sauf que, comme beaucoup de clubs, tu vois, Lyon a fait appel, etc., pour les sanctions, etc. Vitesse est déjà content de garder sa licence. Je vous dis tout simplement pourquoi, parce que les licences, ils sont chez les pros et chez les amateurs. Et en fait, la deuxième division néerlandaise, il y a certains clubs qui sont chez les jeunes, mais au-delà de ça, c'est un peu professionnel et surtout, à partir de la troisième, c'est plus pro. Donc, au-delà de passer en troisième division, c'est que le club aurait pu disparaître totalement. C'est aussi simple que ça.
Pour le troisième plus vieux club des Pays-Bas. Hein.
Voilà.
En fait, c'est simplement comme en France où en fait, ils auraient perdu leur statut professionnel.
Voilà.
Et donc, ça fait que tu n'as pas le droit, entre guillemets, de revenir avec le même nom.
Exactement.
Donc, en fait, le club met la clé sous la porte.
Donc, le stade actuel, c'est qu'ils n'ont pas fait appel parce qu'ils ont peur que s'il y a une nouvelle investigation, ça s'empire. Et qu'ils ont jusqu'au 15 juin, tu parlais tout à l'heure des repreneurs, etc. Ils ont jusqu'au 15 juin pour trouver de l'argent à un nouvel investisseur. Et donc prouver qu'ils peuvent se soutenir en deuxième division et pouvoir continuer de l'avant et remonter potentiellement l'année prochaine.
Vaut mieux être en D2 que
surtout
D2
que
en
niveau
sa licence,
faut imaginer qu'il
que
y a
disparaître.
Il y a quatre clubs, peut-être trois aujourd'hui, quatre clubs de jeunes, enfin les jeunes de l'Ajax, Utrecht et compagnie, et le reste en fait le niveau est pas fou. Donc en fait les gros clubs qui descendent comme Groningen cette année, ils remontent très rapidement derrière, donc vaut mieux redescendre vite fait et remonter après.
Et pour compléter sur ce que dit Tom, faut juste pas perdre de vue que les Pays-Bas, c'est 17,7 millions d'habitants. Donc forcément qu'il y a moins de clubs, il y a moins de joueurs, il y a moins d'argent, ça les empêche pas de, de performer en Coupe d'Europe. Mais juste pour basculer un peu sur la notion de rachat, faut savoir qu'il y a eu des offres.
Et bien justement, on va écouter à ce sujet-là Enzo, qui a l'habitude de venir nous parler de foot néerlandais, qui va revenir sur ce sujet.
Bah sur les rachats, ouais, c'est quelque chose qui est très très important du côté de Vitesse, parce que c'est aussi ce qui a mené le club à sa perte. Il y a longtemps eu, pendant 18 mois, un projet de rachat monté par Coley Paris, un investisseur américain qui voulait reprendre le club à hauteur de très exactement 24,9%, qui a traîné du coup pendant 18 mois, qui a finalement été manqué parce que rejeté par la commission des licences néerlandaises. Il n'y avait pas assez de garantie pour que, enfin, avec cet investisseur, il n'y avait pas assez de garantie, notamment au sujet de l'origine des capitaux qui pouvaient être investis. Ce même Coley Paris qui, via sa, je crois que c'était son fonds d'investissement, je ne suis pas sûr, mais qui s'appelle Common Group, avait déjà prêté 11 millions d'euros avant le rachat depuis septembre 2022. Sauf que ce prêt de 11 millions d'euros qui devait précéder le rachat s'est au final transformé en dette, vu que le rachat a été rejeté. Donc ça a encore plus endetté le club qui pour le coup a aussi pas eu de chance, mais qui a pas su convaincre la commission des licences d'accepter ce rachat. Il y a aussi le projet de rachat de Michael van de Kuyt, dont je parlais, le propriétaire du stade de Vitesse, qui a été lui aussi rejeté par la KNVB, qui est la Fédération néerlandaise de football. Donc tout ça, ça a mené à non seulement le prêt, mais aussi le fait, comme je parlais, avec le stade et plein d'autres choses, mais ce déficit structurel a mené à une énorme dette, avec un avenir économique assez peu reluisant.
Parce qu'après, en fait, les offres de rachat, c'est pas si étonnant. En vrai, c'est quand même sexy, hein. T'es quand même championnat néerlandais, donc t'es quand même largement dans le top 10 européen. Troisième club historique des Pays-Bas, il y a quelque chose à faire.
Il y a eu des autres offres, mais ce que veulent les supporters aujourd'hui, c'est plutôt un ancrage local. Warner me le disait, ils auraient préféré avoir cette idée-là, entre guillemets, en 2022, quand les actifs étaient gelés. Mais aujourd'hui, c'est la solution de base, c'est de se dire, il nous faut une quinzaine d'investisseurs locaux, ou alors, comme à l'anglaise, un supporters trust, donc les supporters qui s'unissent pour mettre l'argent et racheter des parts du club, parce que ça sera plus simple.
Ça ressemble à ce qu'ils voulaient faire à Bordeaux, ce qu'ils veulent faire à Nantes, exactement, ce qu'ils veulent faire à Saint-Etienne. En fait, quand c'est la merde et que tu n'en peux plus de tes proprios, d'un seul coup, tu as envie de repartir sur la base de la base, c'est-à-dire avec des investisseurs locaux, en fait.
D'autant plus que depuis 15 ans, bientôt, ils ont un seul mec, en gros, et qu'à chaque fois, il y a des merdes. Et donc, eux, ils se disent, on va split le truc. S'il y a un problème avec un investisseur, on rachète et ça va très bien se passer derrière. Et puis, surtout, on représente un peu le tissu local. Et ça rentre un peu plus dans le projet futur de relancer surtout sur l'académie et les jeunes, etc. On en parlera plus tard.
Ok, on va en parler même maintenant d'ailleurs, les gars, parce que on va pas tarder à arriver à la fin de l'épisode. Nous, on voulait surtout vous raconter l'épopée un peu incroyable de ce club-là, parce que je trouve ça fou de faire des sauts de puce, de banqueroute en banqueroute, d'escroc en escroc. T'as l'impression que c'est un club qui est à moitié maudit, et j'en avais jamais entendu parler, je me rendais pas compte que c'était à ce point là donc c'est surtout de ça dont on voulait vous parler. Et comme ça, si jamais vous voyez en regardant le classement des Eredivisie qu'il y a un club qui a moins un point, vous comprendrez pourquoi. Juste avant de fermer du coup ce chapitre sur le Vitesse, Tom, on va peut-être parler un petit peu du club quand même, des jeunes, des joueurs, de l'académie, qu'est-ce qui se passe là-bas, parce que c'est pour ça aussi qu'il y a des offres d'achat, c'est qu'entre le stade et le reste, il y a un truc à faire.
Ouais, complètement. Alors, on a parlé un peu des joueurs phares qui sont passés depuis 10-15 ans, les Odegaard, Matic, compagnie. Il y a d'autres noms qu'on n'a pas cités tout à l'heure qui sont sortis un peu plus de l'académie, qui sont Davy Proper et Boni, qui est un peu révélé aussi à ce moment-là, Bertrand Traoré et Christian Atsu, qui est malheureusement décédé depuis, mais sont venus plutôt à travers Chelsea. Peter Bosch était manager avant de devenir manager de l'Ajax, donc ça a été plutôt un succès minime. dans ces années-là, ils sont quand même vainqueurs de la Coupe de Pays-Bas, donc c'est un peu leur seul trophée notable. Et si tu demandes aux supporters, il y a deux générations différentes. Tu as les plus jeunes qui sont ravis d'avoir battu Tottenham en Conference League il y a 2 ans. Et les plus vieux, eux, ils ont battu en 8e de finale le Werder Bremen avant de se faire un peu taper par Liverpool en Coupe de l'UEFA. Bon, chacun un peu ses petites victoires. Bon, faut les célébrer aussi. Ce qui est important.
C'est pas mal, hein. Non, mais c'est aussi pour ça qu'on s'est intéressé à ce club-là. Ouais. Hein. C'est en effet, c'est un club qui a tapé Tottenham il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui, oui.
Et là, ils vont.
Et qu'ils ne sont pas passés loin face à la Roma dans la même saison.
Si ce n'est disparaître, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu triste pour ce club-là.
Voilà. Et que bah, moi, dans la saison où je suis allé voir le match contre la Roma en Conference League, du coup, le 16e de finale, bon, bah, celui qui ratait des occasions à répétition en avant-centre, c'est Loïs Openda. Hein. Juste rien que ça, qui aujourd'hui est l'un des meilleurs buteurs en Europe. Ça montre un peu le style de club qui est devenu. Et en fait, malheureusement, ce que disent beaucoup de spécialistes, c'est qu'avec Abramovich, ils ont un peu délaissé l'académie pour l'achat-revente, un peu le truc très néerlandais, très belge, ou même très Ligue 1 aussi, hein, foncièrement. Et qu'ils ont un peu laissé de côté les jeunes qui, eux, du coup, vont plutôt chez NEC Nijmegen, qui est le rival local dont j'ai parlé tout à l'heure avec le stade, qui, eux, remontent vachement. Ils viennent faire une finale de coupe. Ils sont 6e en championnat et ils récupèrent tous les jeunes. Donc, bon, chacun développe un peu à sa façon. Et aujourd'hui,
ouais, donc
club...
là, l'académie, elle est un petit peu en berne, en fait.
Ouais.
C'est ça qui est. Enfin, ce qui est fou, c'est qu'on va dire que les ravages, finalement, du passage d'Abramovich vont encore durer longtemps, en fait, avant que le club se relève. Et à ce propos, Tom, tu allais interviewer Navid de Foot Néerlandais de la page FootNL sur Twitter, qui va nous en parler un peu mieux.
En fait, sportivement, je pense que c'est les troubles internes qui ont créé un environnement de travail qui a peut-être troublé certains. Parce que au niveau des dirigeants, j'ai pas remarqué énormément de changements. Mais c'est clair que quand Valérie Heuf décide de revendre le club, bah, il va plus remettre de l'argent. En fait, je remarque pas trop de changements au niveau des transferts et tout, en fait, tu vois.
D'accord.
C'est vraiment, je sens que le fait de ne pas savoir qui est propriétaire du club, comment ils vont gérer les comptes, parce que c'est l'un des soucis, c'était ça. Moi, je pense que c'est surtout les troubles internes qui ont changé, parce que Philippe Cocu, il était là la saison dernière, c'était pas trop mal. Mais c'est vrai que le départ de Thomas Hoche, en pleine saison, ça a pas mal créé des troubles aussi sportivement. Parce que d'un coup, bah, les jeux étaient perdus, on savait plus que c'était quoi la direction dans laquelle voulait aller dans le club aussi.
Bah, de toute façon, et la structure et le sportif étaient pas bien. Donc, de toute façon, c'était logique que ça allait finir là-dessus. On a presque envie de se réjouir, entre guillemets, que le club garde sa licence. C'est déjà déjà un moindre mal. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les gars, avant qu'on clôt l'épisode?
Moi, j'ai des pistes pour comment ils peuvent se restructurer, se relancer, en tout cas. Je ferai rapide.
Bah, parfait. Très bien, comme ça, on va vous demander. Parce que là, je ne vais pas vous demander d'habitude. Vous savez, on a l'habitude de faire les projections des chroniqueurs, voir ce qu'ils pensent du club. Là, on ne va pas vous le demander, parce qu'a priori, les projections, c'est au moins la D2. Après, ce que tu disais, Tom, qui est plutôt réjouissant, c'est qu'aux Pays-Bas, la D2 est assez faible. Ouais. Donc, il y a des chances de remonter assez vite avec un budget pareil, avec des structures pareilles. Mais alors, du coup, vas-y, si tu as des pistes, si jamais ils nous écoutent,
ouais.
Là-bas, donc, si tu as des pistes pour qu'ils se restructurent, alors... et puis on finira là-dessus.
Ça ne vient pas de ma tête, mais bon, déjà, on va remettre en ligne de mire le 15 juin. Warner fête son anniversaire et fait une fête ce soir-là, en espérant que son club soit encore en vie. C'est ça l'objectif premier, c'est de trouver des investisseurs pour le 15 juin et être sûr que ça soit stable et plus se relancer. À partir de là, on peut commencer à penser aux sportifs. Et là, il y a deux exemples.
Après, moi, j'ai peur, si je ne m'abuse, que Warner peut aller se brosser.
C'est bon, ça.
Allez.
Il y a deux exemples qui peuvent très bien à suivre. Alors déjà, le Nijmegen qui était très mal il y a quelques années et qui du coup s'est relancé. Bon, c'est le rival local, donc un peu difficile de suivre cet exemple-là. Mais l'autre, c'est Twente qui aujourd'hui un club stable dans le top 5 néerlandais. Il était champion en 2012 avec notamment Tadic. et que ils se sont dit bon bah on avait un mec central au projet de Twente qui relançait tout le truc, c'est Paul van der Kraan, qui aujourd'hui est responsable de la communication et conseiller de la direction à Vitesse. Donc on se dit, c'est une première piste pour remettre au centre du projet les jeunes. On va continuer dans cette idée-là en prenant John van der Brom, qui est passé par le Lech Poznan, super avec les jeunes aussi. Et parfait, la dernière chose, c'est Edwin Ranchais, qui est CEO du club et qui est passé par Den Haag, aussi très bon en communication, en gestion de crise. Parfait pour la situation actuelle.
Et du coup, on retrouve à nouveau Enzo qui nous a parlé de ça aussi.
Bah, déjà, il faut dire, avant de parler purement sportif, purement effectif, avec cette relégation, il y a une sorte de, pour simplifier les choses, un petit peu de plan social qui devrait être mis en place pour repartir sur des bases plus saines. Il y a pas mal d'employés du club qui devraient quitter le club, malheureusement. Il y a aussi une grosse recherche de sponsors qui est lancée. C'est un petit peu, on a l'exemple pareil en France, les clubs historiques qui sont relégués et qui essayent de repartir, on va dire, sur des bases plus saines, avec un tissu local de sponsors, la solidarité d'un petit peu toute la ville, toute la région. Et puis, j'en ai parlé, cette grande solidarité aussi entre le club et les supporters, malgré la relégation, qu'on avait déjà pu voir d'ailleurs lors de l'entraînement juste avant le derby face à NEC début avril, où il y avait une énorme ambiance au centre d'entraînement malgré la situation. Mais si on s'en tient à l'aspect purement sportif, il y a quand même de la qualité dans cet effectif. C'est pas un effectif qui est censé être relégué. Alors il y a eu un mercato d'été 2023 qui a été complètement manqué, l'effectif complètement déséquilibré. Il y a aucun buteur. Enfin, il y avait aucun buteur parce que justement Vitesse a essayé de faire des coups cet hiver, notamment avec Max Merdink, le jeune buteur d'AZ qui avait explosé en Youth League, qui avait montré de très belles choses avec les pros, qui était arrivé en sauveur, mais qui s'est malheureusement rapidement blessé au genou, comme s'il y avait aucun moyen pour Vitesse de se sauver cette saison et que tout était contre eux. Mais je l'ai dit, même si le centre de formation a été un petit peu délaissé ces dernières années, il y a des joueurs qui ont été capables d'en sortir. Il y a Milan Manouf qui est parti cet hiver contre 4 millions d'euros à Stoke City. Il y en a d'autres qui peuvent sortir. Je pense même si lui a été acheté en post-formation, mais à Mathis Tillmans en provenance du PSV. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres jeunes joueurs qui peuvent, on va dire, profiter de cette relégation à l'échelon inférieur pour avoir une place en équipe première qu'ils n'auraient pas forcément eu en première division. Donc je me soucie pas trop pour Vitesse. Faudra surtout surveiller en fait l'aspect extrasportif, ce rachat qui prend du temps, et puis tout simplement essayer d'assainir un petit peu le club et de repartir sur des bases plus saines avec le stade, même si ce sera difficile, mais trouver des solutions pour que Vitesse puisse se pérenniser, comme tu l'as dit, au niveau professionnel, et pas perdre cette licence qui reste quand même malgré tout en danger, même si c'est pas encore même si le club n'a pas été sanctionné en ce sens dès cette saison. Il faudra surveiller sur les prochaines saisons aussi.
C'est pour ça qu'on ne vous a pas beaucoup parlé de terrain aujourd'hui. C'est parce que finalement, c'est vraiment la situation financière est très au-dessus, où entre guillemets, ça pue la merde, et que c'est à cause de ça que le club est en train de s'écrouler. Mais dans les faits, là aujourd'hui, il faut qu'il y ait un repreneur qui vienne avec un projet sérieux, et ça peut rouler. Parce qu'en fait, comme pas mal de clubs qu'on a déjà évoqués dans ce nouveau format de poteau carré, les structures sont là, le bassin, on va dire, de population est là, il y a des jeunes, il y a de quoi faire. Donc en fait, il faut juste que... Il faut juste que les méchants s'en aillent. Voilà ce qu'on veut dans le foot maintenant, c'est que les méchants se barrent et qu'il y ait au moins des moins méchants qui arrivent. Voilà, c'est un peu l'idée. Je pense qu'on va s'arrêter là. Non, vas-y Alex, tu veux rajouter
un truc ? Non, juste, on aurait pu faire une heure sur le sportif et faire un portrait de Easy Matt Mirin,
oui,
qui joue Vitesse et que vous avez tous connu, mais finalement, on s'est dit que tout le monde s'endormirait. Donc on s'est ravisé.
Monaco notamment et Toulouse.
Ouais, non, mais c'était pas un si mauvais joueur que ça, Nicolas. Easy Matt Mirin. Non, mais oui, enfin voilà, pour le sportif, si vous avez envie d'aller voir, je pense qu'il y a pas mal d'articles qui sont intéressants, mais c'est surtout la situation du club qui est un petit peu.
Ah ouais, par contre, là, et on peut faire une petite digression dessus, parce que quand on se lance sur des sujets comme ça, on prie pour avoir des bonnes sources. Si vous tapez Vitesse Arnhem dans Google Actualité, vous allez avoir la dépêche AFP de la sanction sur, je pense, 15 médias différents.
Français et anglais.
Il n'y a aucun qui ne dit pourquoi ils ont été sanctionnés. C'est un délire. C'est du copier-coller, c'est repris partout. Et je te remercie, Tom, et on peut en profiter, Jules, pour remercier tous les gens qu'on a consultés.
J'allais dire que tu me fais une belle passe-dé parce qu'on allait, avant de conclure, on allait en profiter pour remercier du coup ceux qui nous ont aidés à écrire ce podcast. Donc il y a déjà le pote de Tom, Warner, donc, qui fait sa fête le 15 juin. Donc ceux qui ont envie d'aller là-bas, aux Pays-Bas, pour fêter l'anniversaire de Warner, go go go. Sinon, il y a notre habituel qui devient presque notre consultant, j'ai envie de dire, sur le foot néerlandais, Enzo, que vous retrouverez sûrement. Enzo Palo, c'est ça, de son nom. Payot, enfin voilà, qui a l'habitude de venir, intervenir chez nous, que vous retrouverez sûrement
à l'euro,
vous retrouverez sûrement pour l'euro à nos côtés aussi. Et enfin, l'ami Navid de foot néerlandais, c'est ça,
ouais, c'est ça, Foot NL, le gros compte à suivre si vous voulez du foot néerlandais.
Si vous voulez suivre un peu les actualités du foot néerlandais, c'est celui-là qu'il faut suivre. Et merci à E3 de nous avoir accordé une bonne demi-heure d'interview, etc. Parce que, comme disaient les mecs, sinon on n'avait pas énormément de sources et de trucs à se mettre sous la dent. Donc voilà, on espère que ça vous a un peu intéressé. Il y a quand même un petit peu, il y avait l'article de The Athletic que tu avais envoyé, Tom, qui était un peu intéressant, si les gens veulent aller voir.
On mettra le Guardian, l'article du Guardian.
L'article du Guardian sur Abramovich, qui est absolument génial.
Mais en tout cas, c'est un peu triste ce qui se passe. De toute façon, moi, j'en ai marre de cette louvainito de Poto Carré, ça me rend triste. On parle que de clubs qui se pètent la gueule à cause de salopards. Mais enfin voilà, on espère qu'on vous a appris des choses et qu'on vous a intéressé. Et du coup, on va checker de près ce qui va se passer, parce que on croise les doigts pour que ce club ne disparaisse pas, tout simplement. Merci à vous les gars, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Restez connectés parce qu'on va vous annoncer des belles choses là dans le mois qui vient par rapport à l'euro qui arrive aussi. On va préparer plein de trucs très 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 sympas. Donc voilà, restez dans le coin et on se voit très vite dans 2 semaines. Ciao.